Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement, et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 10e épisode, je voudrais parler d'Israël et aussi de Kamala Harris.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Le 28 juillet, il y a une semaine, le Hezbollah a lancé une attaque sur le plateau du Golan, contrôlé par Israël, touchant un terrain de football et tuant 12 enfants de la communauté druze. Le Hezbollah a déclaré viser une base militaire israélienne et a nié être à l'origine de l'attaque.
C'est une roquette de fabrication iranienne de type Falak. Donc comme seul le Hezbollah en possède, au Liban, c'était bien le Hezbollah. Ils ne savent pas viser, c'est tout. De plus, pour ceux qui s'étonnent que le dôme de fer n'ait pas intercepté la roquette, d'après les renseignements dont on dispose, le système de défense pour les attaques de courte portée a bien fonctionné, puisque le dôme a détecté la roquette, mais il n'a pas envoyé de missile intercepteur. La raison est simple. La roquette a été lancée du nord du village de Sheba, ce qui veut dire que le temps de vol est de seulement quelques secondes, en tout cas en dessous d'une minute. Et à moins de 10 km de distance, le dôme ne peut pas intercepter.
En représailles, Israël a mené ses actions les plus spectaculaires depuis le 7 octobre. Le 30 juillet, une frappe israélienne a tué Fouad Choukour, le principal commandant militaire du Hezbollah. Le mercredi 31 juillet, Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique du Hamas, était assassiné, probablement par les Israéliens, alors qu'il était dans la capitale iranienne pour assister à l'inauguration du président nouvellement élu, Massoud Pezeshkian. Les Américains viennent de déployer un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse près du Liban. Les Américains, les Britanniques, ont intimé à leurs ressortissants de quitter le Liban par n'importe quel moyen. Est-on au bord d'un conflit généralisé au Proche-Orient ?
Le risque d'un conflit direct entre Israël et l'Iran n'a jamais été aussi grand. D'abord, l'assassinat ciblé sur Fouad Choukour. Il se trouvait à proximité du siège du conseil de la Shoura. Donc là encore, Israël a montré ses compétences en matière de renseignement militaire. Ils sont parvenus à abattre, quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent, l'un des hommes les plus importants du Hezbollah et l'une de ses figures historiques. En effet, il faut rappeler qui était Fouad Choukour pour tous ceux qui seraient tentés de pleurer sa mort. C'était l'organisateur de l'attaque contre les baraquements français et américains à Beyrouth en 1983. C'est donc quelqu'un qui était directement responsable de la mort de 241 Marines et de 58 parachutistes français. Sur une conférence vidéo récemment, un ancien du renseignement militaire américain s'est d'ailleurs félicité de façon non équivoque de sa fin. En revanche, je n'ai rien entendu des responsables politiques français. Enfin, justice est faite.
Et Ismaël Haniyeh ?
C'était le chef politique du Hamas, il vit à Doha depuis très longtemps. Son rôle était de plus en plus intenable avec les négociations pour le cessez-le-feu et la libération des otages qui n'en finissent pas. Il était clair que le pouvoir repose maintenant en fait, ou de fait, avec le chef militaire du Hamas, donc Yahya Sinwar. D'ailleurs, il y a même des rumeurs comme quoi Sinwar a ordonné son exécution, ce qui évidemment n'a aucun sens, puisqu'il ne fait aucun doute qu'il s'agit des Israéliens. Ils avaient le motif, l'opportunité et le moyen, comme on dit dans les films. Ils auraient pu abattre Haniyeh à Doha, mais ils ont choisi de ne pas le faire pour ne pas se fâcher avec le Qatar, qui a mené les négociations de paix depuis le début, de concert avec l'Égypte. Et aussi, ils ne voulaient pas non plus fâcher les Américains, qui ont une base dans ce petit pays du Golfe.
Il y a beaucoup de théories qui circulent sur les circonstances de sa mort.
En effet, on a commencé par parler d'une frappe directe israélienne. L'autre théorie, c'est que des agents israéliens, avec la complicité de leurs taupes infiltrées au sein du IRGC, hein, qui est les gardes révolutionnaires iraniens, donc l'organisme militaire et politique le plus important du régime, ils auraient installé un engin explosif il y a déjà quelques mois au sein même de la résidence officielle de Haniyeh à Téhéran. L'autre théorie qu'on entend, c'est que le Mossad aurait engagé des assassins, toujours parmi leurs agents infiltrés, qui auraient abattu Haniyeh dans sa résidence. Et enfin, on entend aussi qu'il aurait été tué par un tir de courte portée. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Peut-être un drone explosif. Donc conclusion, on n'est pas sûr des détails, mais on finira par le savoir.
Pour l'attaque sur le consulat iranien à Damas en avril, l'Iran avait riposté à 300 drones et missiles de longue portée, ce à quoi Israël avait riposté de façon très calculée. Ici, c'est le chef du Hamas qui a été assassiné dans leur capitale. Donc que va faire l'Iran ?
D'abord les circonstances. D'après mes sources, un ancien du renseignement israélien, les deux attaques ont été menées presque en même temps, de façon à faire passer un message. Démontrer à ses ennemis qu'Israël n'avait pas peur de mener une guerre sur plusieurs fronts. Ensuite, il semblerait que le Mossad et Shin Bet aient été voir Netanyahou et lui auraient dit qu'ils avaient l'opportunité d'assassiner Choukour et Haniyeh, mais que Netanyahou n'était pas chaud, mais qu'il aurait finalement accepté car il craignait que le Mossad ne laisse fuiter dans la presse que lui, donc le Premier ministre, avait eu l'opportunité de venger le 7 octobre, mais l'avait laissé passer.
Pourquoi Netanyahou refuserait-il ?
D'abord, la relation entre le Premier ministre Netanyahou d'un côté et Yoav Gallant, le ministre de la Défense, de l'autre, ainsi qu'avec le Mossad et le Shin Bet, les services de renseignement extérieur et intérieur d'Israël, la relation est au plus bas. L'autre chose, c'est que, contrairement à ce qu'on dit en Europe, Netanyahou n'est pas du tout autant un va-t-en-guerre qu'on puisse le penser. Il est en fait assez adverse au risque. Ce que veut Netanyahou, c'est avant tout survivre. Donc, il a tout intérêt, comme je l'expliquais il y a déjà plusieurs mois, tout intérêt à ce que le conflit à Gaza s'éternise. En effet, si le conflit est résolu, il devra mener des élections. S'il mène des élections, il perd. Ensuite, il y aura une commission d'enquête sur les événements du 7 octobre, sur lesquels sa responsabilité a été de nombreuses reprises évoquée. On a dit que c'était un raté des renseignements, mais c'est aussi un raté du cabinet de Netanyahou. Enfin, il y aura aussi ces problèmes judiciaires qui vont recommencer. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment intérêt à la libération des otages. Parce que s'il y a libération des otages, le conflit à Gaza est officiellement terminé. Et, en revanche, l'assassinat des leaders du Hamas ou du Hezbollah peut changer la perception qu'a le public de lui.
Et du côté iranien ?
L'Iran va attaquer Israël. Ce qu'on ignore, c'est comment et avec quelle intensité. Le régime iranien n'a pas le choix. S'il se montre faible, il tombe. L'obsession du régime, c'est la contestation interne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il continue à montrer des faiblesses sur le renseignement intérieur. Au lieu de développer ses capacités de contre-espionnage, les services secrets iraniens sont obsédés par la contestation interne. Donc Téhéran est face à un dilemme. S'ils ne font rien, c'est comme un géant avec des pieds d'argile et le peuple peut décider de les renverser. Et ça peut être un mouvement inexorable. S'ils attaquent Israël, mais que leur attaque entraîne une riposte trop violente, ils vont paraître faibles et le régime peut tomber. De plus, d'après nos sources, il y a aussi à Téhéran la perception qu'Israël est miné par la dissension intérieure et que l'État hébreu est plus fragile qu'il n'y paraît et que ce serait justement peut-être l'opportunité de les détruire.
Pourrait-il utiliser le Hezbollah de façon à inciter Israël à lancer une invasion du Liban ?
Tout est possible. Mais le discours sur les multiples fronts est un peu surfait d'un point de vue géopolitique, pas vraiment au point de vue militaire. Hamas n'a pas la capacité militaire de menacer Israël. Comme je le disais, la guerre sur la bande de Gaza est techniquement quasi terminée, et ce depuis plusieurs mois. Les Houthis, qui sont un autre proxy de Téhéran, ne peuvent rien ou presque rien. Quand ils lancent des missiles, ils sont à plus de 1500 km, c'est vraiment un coup médiatique et rien d'autre. En fait, la guerre serait avant tout entre l'Iran et son proxy, le Hezbollah, d'un côté, et Israël de l'autre. Et là, comme je le disais, tous les scénarios sont envisageables. Ce que veut l'Iran, ça serait humilier Israël, sans pour autant offrir un casus belli suffisant qui inciterait Israël à infliger des pertes énormes sur le territoire iranien. La décision qu'ils vont prendre, elle est donc très dure à anticiper. Ils pourraient déclencher deux attaques de missiles en simultané, du Liban et directement d'Iran, du Liban pour saturer les défenses israéliennes. Le Hezbollah en a la capacité, il dispose de milliers de missiles et de roquettes, suivi d'une attaque iranienne sur une infrastructure militaire en Israël par exemple. S'ils font ça, ils prennent un gros risque, car Israël n'hésitera pas à déclencher une attaque majeure. Plus probablement, il pourrait aussi essayer de lancer une opération commando à partir du Liban, ainsi en sacrifiant le Hezbollah, puisque la riposte d'Israël serait probablement sur le sol libanais. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont agir dans les jours qui viennent, probablement cette semaine, ou au plus tard la semaine prochaine.
Autre gros sujet, Kamala Harris aurait déjà assez de délégués pour remporter l'investiture démocrate. Ce week-end, elle faisait passer des entretiens à 6 colistiers potentiels avant d'annoncer son candidat à la vice-présidence demain, lundi 5 août, ou après-demain. En tout cas, avant son meeting politique prévu mardi à Philadelphie, où elle compte le présenter. Vous pariez sur qui ?
Pas évident, hein ?
Vous aviez dit au début de l'année que le duel Trump-Biden n'était pas couru d'avance, alors que tous en France étaient convaincus qu'il était inévitable. Vous sembliez même croire que le désistement de Biden pour raison d'âge représentait une probabilité plus grande que celui de Trump en cas de condamnation. Et quelques heures après l'annonce que Biden se retirait de la course, vous avez écrit dans un grand média que Kamala Harris serait la candidate démocrate.
Oui, c'est juste. Mais moi, je pensais que Manchin, Joe Manchin, l'ancien gouverneur de Virginie de l'Ouest, et Gretchen Whitmer, la gouverneure actuelle du Michigan, étaient les deux meilleures options pour Kamala Harris. Mais visiblement, elle n'a pas lu mon article. Harris, elle a une force. Elle est jeune, 59 ans, elle est télégénique, elle est assez bonne débatteuse, elle passe bien à la télé. Elle a une faiblesse, elle est trop à gauche pour l'électeur indépendant, sans lequel elle ne sera pas élue. Manchin, ce qu'il faisait, c'est qu'il la rééquilibrait vis-à-vis des indépendants, parce que c'est un démocrate, on va dire un démocrate de droite, et il lui apportait du gravitas à cause de son incroyable expérience politique. Whitmer, Gretchen Whitmer, elle accentuait le contraste avec la paire Trump et Vance, et elle lui apportait le swing state du Michigan qui est essentiel pour gagner. Maintenant, d'après les journaux, la shortlist se composerait des usual suspects, si je puis dire. Donc on aurait Beshear, qui est le gouverneur du Kentucky, Shapiro, qui est le gouverneur de Pennsylvanie, Pritzker, celui de l'Illinois, Walz du Minnesota, et on aurait aussi le sénateur Mark Kelly d'Arizona et Pete Buttigieg, qui faisait partie de l'administration Obama.
Lors du dernier podcast, vous ne nous aviez pas parlé de Kelly et de Buttigieg.
D'après les médias, Kelly, Mark Kelly, serait deuxième dans la liste de Kamala Harris, la liste des six. Bon, oui, je n'en avais pas parlé, parce que je croyais que ce serait un gouverneur, ou évidemment mes options, Manchin et Whitmer, qui d'ailleurs est gouverneur aussi. L'Arizona, c'est un des sept swing states. Kelly est populaire, c'est un sénateur, il a été élu récemment. C'est un ancien pilote de chasse de la Navy, un ancien astronaute, et aussi il est marié à quelqu'un de très connu, qui s'appelle Gabby Giffords, qui est une des premières victimes de la violence politique aux États-Unis, puisqu'elle avait dû cesser sa carrière après avoir été la victime d'un attentat. Quelqu'un lui a tiré dans la tête, heureusement, elle s'en est remise, et par contre, elle a arrêté sa carrière. Pete Buttigieg n'est pas du tout un inconnu, mais je pense qu'il est trop marqué par le label administration Obama, et j'y crois pas du tout. Ensuite, si on regarde l'histoire des choix de VP depuis une trentaine d'années, en général, ce sont soit des gens qui sont censés compenser des faiblesses perçues des candidats à la présidence, soit des individus qui, au contraire, vont renforcer un certain positionnement du candidat. La plupart du temps, on attend beaucoup du choix du vice-président, mais la réalité, c'est qu'il n'apporte pas grand-chose. Donc si on regarde un peu l'histoire, il fait perdre, dans le cas de Sarah Palin, pour John McCain, contre Obama et Biden en 2008, ou alors il n'a pas vraiment d'influence comme Joe Lieberman pour Kerry contre Bush en 2004. Ou alors on a Pence et Trump, le choix de Pence n'a absolument rien influencé sur la victoire de Trump. Le seul exemple, je pense, qui a eu un vrai effet, c'était l'association Bill Clinton et Al Gore. Et pour ça, il faut remonter à 1992, aux élections contre justement George H. Bush, et aussi il y avait un troisième candidat qui était Ross Perot. Parce que Clinton-Gore, ensemble, ils représentaient vraiment la jeunesse, tous les deux quarantenaires, c'était le Nouveau Sud, Clinton d'Arkansas et Gore du Tennessee, et puis surtout, après 12 ans d'administration républicaine, il symbolisait un parti démocrate en rupture, un parti démocrate qui était maintenant ancré au centre. D'ailleurs, sans surprise, Gore est l'un des seuls vice-présidents, avec peut-être Dick Cheney, qui a eu la réputation d'être vraiment très très influent et très actif.
Alors qui ?
Kamala Harris ne veut pas de Manchin et Whitmer, et semblerait, je continue à maintenir que c'était les deux meilleurs choix, d'ailleurs des choix très différents, les deux meilleurs choix pour gagner, pour l'emporter contre Trump et Vance. Donc, le plus logique, si on s'en tient à la liste des six, c'est clairement Josh Shapiro, que d'ailleurs je mentionnais il y a deux semaines. Il est très populaire dans son état de Pennsylvanie. Le différentiel de points par rapport à Biden dans le même état est de 7 points, selon le Washington Post, ce qui est très important. Josh Shapiro est jeune, il a 51 ans, il est télégénique, il passe bien, il est très populaire, comme je le disais, et il est juif, ce qui serait aussi une première. Il ne faut pas oublier, si on regarde le ticket Kamala Harris-Josh Shapiro, donc si Kamala l'emportait le 5 novembre, on aurait la première présidente femme, la première présidente femme d'origine afro-américaine et sud-asiatique, avec le premier vice-président juif. Donc ça renforcerait clairement le contraste avec le ticket opposé, c'est-à-dire Donald Trump et J.D. Vance. Après, regardons les autres choix. Kelly, j'en ai parlé. Mark Kelly, c'est un beau choix sur le papier. Militaire, astronaute, une femme victime de violences politiques. Mais encore une fois, les électeurs, ils ne votent pas pour la personnalité de quelqu'un. Les gens, ils votent non pas pour les types bien, comme Mark Kelly, mais pour ceux qui vont résoudre leurs problèmes quotidiens. Ou alors, ils votent contre ceux qu'ils détestent. Pete Buttigieg, il ne lui apporte pas grand-chose. Waltz, qui vient du Minnesota, enfin, c'est le gouverneur du Minnesota, paraît-il que c'est le préféré de Nancy Pelosi. Mais gagner le Minnesota, même si ce n'est pas couru d'avance, ça reste beaucoup moins important qu'en remporter les trois états du Blue Wall, hein, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Pritzker, en Illinois, ne lui apporte quasiment rien à Kamala Harris. Beshear, qui est le gouverneur du Kentucky, pas vraiment non plus, puisque même s'il est très populaire dans son état, je vois mal les démocrates remporter le Kentucky, ça semble quasiment impossible. Or, la Pennsylvanie, on le sait déjà, va être l'état le plus contesté de toute la campagne. Il y avait même un journal qui parlait de Pennsylvanie comme la nouvelle Floride, en référence au fait que, pendant des décennies, tout le monde se battait pour la Floride, parce que c'était le quatrième état en termes de grands électeurs, et qu'il était toujours en train de vaciller entre les démocrates et les républicains. Puis au bout d'un moment, les démocrates se sont dit qu'ils n'arriveraient vraiment jamais à remporter la Floride. Donc la Pennsylvanie, il va y avoir à peu près la moitié des dépenses publicitaires des 7 swing states qui vont être investies dans cet État. Or, elle peut avoir le gouverneur très populaire de surcroît de cet État comme colistier. Donc, en conclusion, je serais extrêmement étonné si parmi les 6, ce n'était pas Josh Shapiro qu'elle choisit.